Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 88, Daf Perhet. Bonne écoute et bon limoud.
Et mi avitartav, quelle mesure je mettrai à sa place pour remplacer la mesure manquante des 7 mesures? Il répond, et là, midai terash lug mirtzahita. Plutôt, il y avait une mesure supplémentaire qui contient un loug et demi, soit 0,9 litres, chez Bo Hayamoded Lechavite Kohen Gadol, avec laquelle il mesurait l'huile nécessaire pour l'offrande des pains spéciaux journalières du Kohen Gadol. En effet, cette offrande était accompagnée d'une quantité totale de 3 lougs qu'il fallait partager. Donc, loug ou mirtza baboker, il mesurait un loug et demi pour la partie du matin, loug ou mirtza ben arbaïm, et il mesurait une autre fois la quantité d'un loug et demi d'huile pour l'offrande ou la partie de l'offrande qui était offerte l'après-midi. Amroulo, les chachamim lui ont dit, Chatsilug aitasham, il y avait là-bas une mesure d'un demi-loug, ve'efchar lecher bechatsilug. Il est possible de mesurer cette quantité d'un loug et demi avec la mesure d'un demi-loug, donc en mesurant cela 3 fois. C'est-à-dire, même s'il faut mesurer la moitié de l'offrande du Kohen Gadol pour la partie offerte le matin ou l'après-midi en une fois, on aurait pu se contenter d'utiliser une autre mesure qui existait, celle d'un demi-loug. Amar Lahem, Rabbi Shimon leur répond, Af le divrechem, même selon vos paroles, lorsque vous dites qu'il n'y a pas cette mesure d'un loug et demi, nous lisons selon la Shetam Kubetset, Chatsi loug lo yase, il n'avait qu'à ne pas faire la mesure d'un demi-loug, Revit Aitacham, car il y avait là-bas la mesure d'un quart de loug, il est possible de mesurer cette quantité d'un demi-loug en mesurant 2 fois dans cette mesure d'un demi-loug. Il est vrai que pour les mesures écrites dans la Torah, comme le loug pour les offrandes ou les mesures plus grandes pour les offrandes qui accompagnent les sacrifices, il devait avoir une mesure prévue pour cela, mais pour les mesures qui ne sont pas écrites clairement dans la Torah, on aurait pu se contenter d'employer plusieurs fois une mesure plus petite. Et là, plutôt, forcément, tu devras dire, Zéaklal, Hayab Amigdash, c'est cela la règle générale qu'il y avait dans le sanctuaire, Kli Shemeshamesh Midazu, un ustensile qui sert pour une mesure, et non Meshamesh Midacheret, ne peut pas être employé pour une autre mesure. Donc, forcément, pour chaque type de mesure, il fallait un ustensile de mesure. Comme l'explique le Sfat Emet, les Chachamim ont accepté cette règle générale énoncée par Rabbi Shimon. Cependant, selon eux, il n'est pas nécessaire de mesurer la moitié de l'huile offerte par le Kohen Gadol pour la partie offerte le matin ou l'après-midi, mais plutôt, comme nous le verrons plus loin dans la Gemara, on mesurait la quantité d'huile nécessaire pour chacun des pains, car comme nous le verrons, pour chaque pain, il fallait ajouter une quantité d'un quart de loug d'huile. La Braïta poursuit, nous lisons la parenthèse, Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer, Shnatot Hayubahin, il n'y avait pas 7 instruments de mesure, mais plutôt un seul qui contient un hin, donc 12 loug, dans laquelle il y avait des encoches qui correspondaient à chacune des types de mesures. Donc, nous lisons selon la Shetam Kubetset, il y avait une encoche qui voulait dire Adkan la part, jusqu'ici il fallait remplir l'huile ou le vin pour l'offrande qui accompagne l'offrande d'un taureau, donc un demi-hin, soit 6 loug. Adkan les haïl, une autre encoche qui voulait dire jusqu'ici il fallait remplir l'huile ou le vin pour le sacrifice d'un bélier, soit un tiers de hin ou 4 lougs, Adkan la keves, et une troisième encoche qui voulait dire jusqu'ici il fallait remplir l'huile et le vin pour l'offrande d'un mouton, soit un quart de hin, donc 3 lougs. Il y avait bien sûr d'autres encoches, une pour la mesure d'un loug, une autre pour la mesure d'un demi-loug, et une dernière pour la mesure d'un quart de loug. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, lui donc, n'est pas d'accord avec cette règle générale énoncée par Rabbi Shimon. Selon lui, il n'y avait pas d'instrument de mesure pour chaque type de mesure. Nous avons vu donc dans la Braïta que Rabbi Yehuda énonce les différentes mesures dans l'ordre ascendant, tandis que Rabbi Meir les énonce dans l'ordre descendant. Alors la Gemara demande, Maïka ben Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? En quoi discutent-ils? La Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, Birutze Midot Ika ben Ayhu. Le point de discussion entre ces deux avis est concernant le statut de ce qui coule le long de la mesure lorsqu'on la remplit jusqu'au bout. En effet, lorsqu'on remplit une mesure d'un liquide à ras-bord, en fait, on peut le remplir même légèrement au-dessus, mais dès qu'on bouge cet ustensile, ce surplus s'écoule le long des parois de cet ustensile. Les man de Amar, selon la Vikili, donc selon Rabbi Houda qui dit « Mimata le mala », il énonce, c'est cette mesure de bas en haut, donc en ordre ascendant. Kassavar, il pense, « Birutze amidot nidkachu », ce qui coule le long des parois a été sanctifié, donc ce qui a coulé a le statut spécial d'un sacrifice. Il peut donc soit récupérer ce qui a coulé pour l'offrir avec les libations de ce sacrifice, ou bien, comme nous le verrons plus loin d'Aftzadeh, s'il y a un autre sacrifice sur place, il pourra joindre cela aux libations d'un autre sacrifice. Sinon, il faudra les racheter immédiatement, car ils risquent d'être invalidés par le passage de la nuit, comme l'Agmara l'expliquera plus loin d'Aftzadeh Amudbet. Voir le Chazon Ish dans Siman Kavzaïn qui explique longuement ce passage. Et cela car à l'origine, Urvi'it Yahivleh Rachamana le Moshe, à l'origine, Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la mesure qui contient un quart de loug, va amarle sha'er, et lui a dit, évalue avec cette mesure les autres mesures qui sont plus grandes. Des ka'aile lehu birutzin, ainsi, le surplus des mesures rentre aussi dans la nouvelle mesure. En effet, lorsqu'il remplit la petite mesure à ras-bord, même légèrement bombée, et il la verse immédiatement dans un ustensile plus grand, il arrive donc à recueillir même le surplus de la mesure. Et lorsqu'il le fait deux fois, donc la mesure qui contient par exemple un demi-loug contiendra légèrement plus qu'un demi-loug, et ainsi de suite. Et c'est pour cela donc que Rabbi Houda énumère les mesures dans l'ordre ascendant pour nous enseigner que l'origine de mesure était la mesure d'un quart de loug, et donc les autres mesures contiennent légèrement plus, comme nous l'avons expliqué. Le man de Amar, selon la Vikidi, donc selon Rabbi Meir qui dit mi mala le mata, de haut en bas, donc il a énuméré les mesures en ordre descendant, Kassavar, il pense, Birutze midot lonit kachu, que le surplus des mesures n'a pas été sanctifié, c'est-à-dire, en fait, même si ce liquide est sanctifié car il a été désigné à l'origine pour l'utilisation d'un sacrifice, cependant, il n'a pas la sainteté spéciale d'un sacrifice, parce que finalement, c'est le surplus de la mesure, il faudra donc le racheter, comme l'Agmara l'explique plus loin d'Aftzadeh, mais il n'est pas nécessaire de le faire le jour même, car ce surplus ne sera pas invalidé par le passage de la nuit. Et cela car Vehin Yahavle Rachamana le Moshe, à l'origine, Akosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la mesure d'un hin de 12 loug. Ve Amarle, et lui a dit Sha'er, évalue avec cette mesure les autres mesures qui sont plus petites. Nous sautons le mot suivant selon la Shitam Kubetset, De Kanafke Birutzin, ainsi le surplus des mesures est exclu, car pour procéder à cette évaluation, il doit verser d'un ustensile grand à un ustensile plus petit. Il doit le faire doucement, donc le surplus de la mesure s'est répandu, il n'a pas eu le temps de le recueillir. Et c'est pour cela donc qu'il énonce les mesures en ordre descendant pour montrer que la mesure d'origine était la grande mesure contenant un hin, soit 12 loug. Abaye Amar, de Kula Alma, Birutze Amidot, que tout le monde pense, soit Rabbi Meir, soit Rabbi Houda pense, qu'en ce qui concerne le surplus des mesures, Ikal Memar Nitkachu, il est possible de dire qu'ils ont été sanctifiés par l'ustensile. Et il est possible de dire qu'ils n'ont pas été sanctifiés. Et en fait, le sujet de discussion est autre. Ici, leur sujet de discussion est à savoir comment interpréter le terme meleim plein. Par exemple, dans Bamidbar Vav, concernant les sacrifices offerts par les chefs de tribu, le pasouk s'exprime en parlant d'ustensiles meleim solet rempli de fleurs de farine. Donc, le pasouk parle d'ustensiles pleins ou remplis. Manda Amar, celui qui dit donc Rabbi Meir, qui énonce les mesures, mais le mala le mata, de haut en bas, donc en ordre descendant. Kassavar, c'est parce qu'il pense, lorsque le pasouk dit meleim, des ustensiles remplis, shelo yersar ve shelo yotir, cela veut dire qu'il ne doit ni diminuer de la mesure, ni ajouter dessus. C'est pour cela qu'il évalue à partir de la mesure d'un hin, 12 loug, qu'il partage exactement, en versant doucement. Ainsi, il n'y a pas de surplus et les mesures sont exactes. Cependant, comme le précise le Tosfot, si quand même il y a eu un surplus, selon la possibilité que tout le monde pense que les surplus sont sanctifiés, même selon Rabbi Meir, donc ils seront sanctifiés comme nous l'avons expliqué précédemment. Ou Mandamar, tandis que selon celui qui dit Rabbi Houda qui énumère les mesures Mimata le Mala de bas en haut, donc en ordre ascendant, c'est parce que Meleim, lorsque le Pasouk dit des ustensiles remplis, chez l'oyersar, qui ne doit pas diminuer de la mesure, à valiotir, mais s'il le veut, il peut même ajouter légèrement sur la mesure. Et quand même, meleim karinabe, nous pouvons appliquer ce que le pasouk dit des ustensiles remplis, c'est-à-dire que lorsqu'il ajoute légèrement sur la mesure, nous pouvons toujours considérer que la mesure est juste. C'est pourquoi à l'origine, Moshe Rabbeinu a employé une mesure d'un quart de loug, à partir de laquelle il a évalué les autres mesures, en versant rapidement d'un petit ustensile dans l'ustensile plus grand, il y a toujours un léger supplément, et donc les mesures sont légèrement plus grandes. Mais en fait, ce surplus n'est pas obligatoire, et il est possible même, comme nous l'avons vu, que ce surplus n'est même pas sanctifié. Cependant, comme explique le Chazon Ish, même lorsqu'il y a un petit supplément, nous ne considérons pas que la mesure est faussée et que par conséquent, l'offrande est invalidée. Amarmar, la Gemara reprend le passage de la Braïta ou de la Mishnah qui dit, Rabbi Shimon Omer, Lo haya sham hin, il n'y avait pas la mesure d'un hin qui contient 12 loug dans le sanctuaire, car cette mesure ne servait à rien. La Gemara demande, Shapir Kamar lehu Rabbi Shimon le Rabbanan, Rabbi Shimon a bien posé la question au Chachamim, car comme nous l'avons vu, cette mesure ne servait à rien dans le sanctuaire. La Gemara répond, Vera Banan et le Chachamim répondent là-dessus, Havahin de Avad Moshe le Shemen Amishra. Il y avait la mesure d'un hin qui contient 12 lougs que Moshe Rabbeinu a dû faire pour fabriquer l'huile d'onction. Dirtiv, car le Pasouk dit dans Shemot Lamed concernant l'huile d'onction, Veshemen Zait Hin, et une quantité d'un hin, donc de 12 lougs d'huile d'olive. Donc forcément, cette mesure a été nécessaire. Mar Savar, un des deux pense, Rabbi Shimon pense, Kivan de le Dorot la Vatsarir, puisque pour les générations à venir, cette mesure n'est pas nécessaire, le ficha ahu de avde, il l'a fait juste pour le moment, pour fabriquer cette huile d'onction, veignaz, puis il l'a enfouie, et donc elle n'existe plus dans le sanctuaire, veidach, et les autres, tandis que le chachamim pense, kivan de hava, puisque cette mesure a existé une fois, elle a dû être utilisée, hava, elle y était, elle est restée aussi dans le sanctuaire. Amarmar, la Gemara reprend le passage de la Braïta ou de la Mishnah qui dit, et quelle mesure je mettrai pour remplacer la mesure manquante? Donc Rabbi Shimon dit qu'il ajoute une mesure qui contient un loug et demi. La Gemara demande, l'osagia de l'homme et aïel, n'y a-t-il pas d'autre choix que d'ajouter une mesure? D'où savait-il qu'il y avait cette mesure dans le sanctuaire? La Gemara répond que d'Amar Ravina, comme Ravina dit ailleurs, gmire, les chachamim savent par tradition, shtes michot betzibur. Il y a deux sacrifices publics pour lesquels il faut l'action de s'appuyer de toutes ses forces sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier. Et cela, la Gemara le dit plus loin. Hachanami, ici aussi, concernant les mesures, Gmire, les Chachamim savent par tradition, Deshev Amidot Shelah Hayu Bamigdash, qu'il y avait sept mesures de liquide dans le sanctuaire. Donc, si celle de Hin n'existe pas, il en faut une autre pour la remplacer. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer, Shnatot Hayu Bahin. Il y avait des encoches dans la mesure qui contient un Hin. Il n'y avait donc qu'une seule mesure dans laquelle il y avait des encoches correspondant aux différentes mesures. Il n'y avait donc pas sept instruments de mesure. La Gemara demande, Vedetle Sheva Midot, n'est-il pas d'accord avec cette tradition qu'il y avait sept instruments de mesure dans le sanctuaire? La Gemara répond, effectivement, Letle, il n'est pas d'accord avec cette tradition. Selon lui, il n'y avait qu'un seul instrument de mesure. Vibaitema, et si tu veux, je te répondrai qu'en fait, Mai Sheva Midot, que veut dire cette tradition selon laquelle il y a sept instruments de mesure? En fait, selon Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, cela veut dire Sheva Medidot, il y a sept unités de mesure dans le même instrument. C'est ainsi donc qu'il a interprété cette tradition, et c'est pour cela que selon lui, il y a une seule mesure qui contient sept unités de mesure, donc dans laquelle il y a six encoches correspondantes aux différentes mesures. Nouvelle Mishnah, Revi'it Mahita Meshameshet, à quoi servait l'ustensile qui contient un quart de loug? La Mishnah répond, Revi'it Maim Lemetzora, il fallait un quart de loug d'eau pour le lépreux. En effet, lorsque le lépreux était guéri de sa lèpre, le Kohen sortait à l'extérieur du camp où il se trouvait, avec entre autres deux oiseaux, dont il égorgeait un dans un ustensile contenant de l'eau, puis il trempait la queue de l'oiseau resté vivant, en même temps qu'un bouquet constitué de bois de cèdre, d'une branche de hésove et de laine teinte en cochenille, et il effectuait des aspersions en direction du lépreux. En tout cas, les Chachamim ont évalué que le sang d'un petit oiseau n'était pas annulé, donc ne disparaissait pas dans une quantité d'un quart de loug d'eau. Et c'est donc cette quantité qui a été fixée pour l'utilisation du lépreux. Comme l'explique le Rashba, il est vrai que cette eau, comme nous le voyons dans la Mishnah, a été mesurée dans un ustensile de mesure. Cependant, puisque à l'origine, cette eau n'a pas été destinée à être sanctifiée, mais uniquement à être mesurée, celle-ci n'a pas été sanctifiée, on peut donc la faire sortir à l'extérieur du camp pour purifier le lépreux. Urvit Shemen Lenazir, et aussi cette mesure était employée pour mesurer un quart de loug d'huile employée pour les pains offerts par l'abstinence à l'issue de la période d'abstinence qu'il a observée. La Gemara expliquera Chatsi loug mayam shamesh, à quoi servait la mesure d'un demi-loug? La Mishnah répond Chatsi loug mayim le sota. Il fallait une quantité d'un demi-loug d'eau pour la femme soupçonnée d'adultère. Lorsqu'on l'amenait au sanctuaire pour déterminer si elle a commis ou non l'adultère, on lui faisait boire de l'eau provenant du kior dans laquelle on aura effacé un parchemin sur lequel on a écrit le passage correspondant à la femme soupçonnée d'adultère dans Bamidbar He. Les Chachamim ont évalué que dans une quantité d'un demi-loug d'eau, l'encre provenant du parchemin qu'on a effacé n'a pas disparu. Donc c'est cette quantité qu'il fallait employer. Bechatsilug Shemen le Toda, et aussi cette mesure était employée pour mesurer la quantité d'un demi-loug d'huile pour les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement. La Gemara expliquera Ubelug Hayamoded le Cholam Nachot, avec la mesure d'un loug, il mesurait l'huile nécessaire pour toutes les offrandes à base de farine. Afilu Mincha Shel Shishim Isaron, même pour une offrande de 60 Isaron qu'une personne s'est engagée à offrir, Notenla Shishim Lug, il lui donnera, donc il ajoutera une quantité de 60 lug d'huile et il mesurera 60 fois l'huile avec cette mesure. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Afilu Mincha Shel Shishim Isaron, même pour une offrande de 60 Isaron, Enla Ela Luga, elle n'aura qu'un seul lug d'huile. Chez Neymar, car le pasouk dit dans Vaikra Yuddalet concernant les sacrifices offerts par le lépreux lorsqu'il est guéri de sa lèpre, dans le cas où il est pauvre, le pasouk dit Lemincha velog shemen. Il offrira la quantité d'un isaron de farine pétrie avec de l'huile pour une offrande et un loug d'huile. Cette manière de s'exprimer où le pasouk juxtapose le terme de mincha avec l'expression log shemen, une quantité d'un loug d'huile, veut dire que pour chaque offrande, peu importe sa taille, il y aura toujours un seul loug d'huile. En effet, comme l'Agmara l'explique plus loin d'Af Kuf Gimel, on peut offrir jusqu'à 60 Isaron dans un seul ustensile et donc cette grosse offrande sera considérée comme une seule offrande. S'il y a plus de 60 Isaron, il faudra partager. Et c'est donc cela la discussion entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et le premier auteur de la Mishnah, à savoir lorsqu'il y a une offrande d'une grosse quantité, est-ce que pour chaque Isaron il faut un loug d'huile? Ou bien, pour chaque offrande, peu importe sa taille, on se contentera d'un seul loug d'huile. Shisha lepar, la mesure qui contient un demi-hin, soit 6 lougs, est employée pour mesurer le vin et l'huile qui accompagnent le sacrifice d'un taureau. Ve'arba'a la'il, et la mesure d'un tiers de hin, soit 4 lougs, est utilisée pour mesurer l'huile et le vin qui accompagnent le sacrifice d'un bélier. Ushlosha lekeves, et la mesure d'un quart de hin, soit 3 lougs, est employé pour mesurer le vin et l'huile, employé pour accompagner le sacrifice d'un mouton. Shlosha ou Mertza le menorah, il faut une quantité de 3 lougs et demi d'huile pour le candélabre dans le sanctuaire. Chatsi loug le cholner, vous remplissez chacune des 7 lampes avec une quantité d'un demi-loug d'huile. Donc on employait aussi cette mesure d'un demi-loug pour chacune de ces lampes. Comme l'explique la Shita Mukubetset, ce dernier passage de la Mishnah concernant le candélabre ne fait pas partie de cette mesure. Cependant, la Mishnah l'a mentionné étant donné qu'elle a mentionné les quantités de liquide employées dans le sanctuaire. Elle a donc mentionné aussi la quantité d'huile utilisée pour le candélabre qui était allumé chaque jour. Alors, l'Agma dit là-dessus, Yativ Rebi Bekakashale, Rebi était assis et se posait la question suivante. Rebi it Lama Nimshecha, pourquoi est-ce que l'ustensile de mesure contenant un quart de loug a été enduit avec l'huile d'onction, et donc cette mesure est sanctifiée et sanctifie ce qui s'y trouve. Imetzora, si c'est pour l'eau employée pour purifier le lépreux, comme nous l'avons vu dans la Mishnah.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Perhet Amud Bet. Chutzu. Pourtant, cette eau est employée à l'extérieur, en dehors des trois camps. Il est évident donc que cette eau, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, n'a pas été sanctifiée, et ce n'est pas pour cela, pour mesurer cette eau, que l'ustensile a été sanctifié. Ve'inazir, si c'est pour mesurer l'huile employée par l'abstinent pour les pains qu'il doit offrir pour ses sacrifices, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, qu'il a besoin d'un quart de loup d'huile, lechem nazir, le pain des sacrifices de l'abstinent, bishritat ailhu de kadish, sont sanctifiés uniquement par la sacrification du bélier qu'ils accompagnent. Donc de toute façon, cette huile ne sera pas sanctifiée par l'ustensile de mesure. Donc si c'est uniquement pour ces deux choses énumérées dans la Mishnah, il n'y avait pas de raison de sanctifier cet ustensile de mesure. Amarle, Rabbi Chia lui a répondu, Sheba hayamoded lechavite kohen gadol, c'est avec cette mesure qu'il mesurait l'huile pour les pains spéciaux offerts tous les jours par le Kohen Gadol. Revi'it shemen le kol chala vechala. Il avait besoin en effet d'un quart de loup d'huile pour chacun des 12 pains qu'il confectionnait. Alors comme l'explique le Tosfot plus haut d'Afret rapporté par le Rachash, au départ le Kohen devait amener la quantité d'un isaron de fleurs de farine accompagnée de 3 loups d'huile qu'il mettait dans le même ustensile. Ainsi, ils seront sanctifiés, puis après, ils partageaient donc cette farine et cette huile pour les pains qu'ils devaient confectionner. Puisque la farine et l'huile ont déjà été sanctifiées dans un ustensile de service, c'est un peu un manque de respect de les mettre dans un ustensile profane. C'est pourquoi donc, lorsqu'on mesurait le quart de loup d'huile pour chacun des pains que devait confectionner le Kohen Gadol, il fallait impérativement qu'il s'agisse d'un ustensile de service, et c'est pourquoi donc, il a été sanctifié. Carré allait. Rabbi a dit sur Rabbi Chia le pasuk suivant dans Yeshaya Memvav qui dit « Me'eretz merchak ish atzati » C'est à Kadosh Baruch Hu qui parle en disant « J'ai amené l'homme à qui j'ai donné de conseils d'un pays lointain. » Dans notre contexte, Rabbi voulait dire « Mon conseiller vient d'un pays lointain » car en effet, Rabbi Chia venait de Babylone alors que Rabbi se trouvait en Eretz Israël. Cependant, comme l'explique le Tarat HaKodesh, si c'était uniquement pour l'huile employée par le Kohen Gadol tous les jours qu'on avait fabriqué cet ustensile d'un quart de loup, ne l'aurait pas utilisé l'argent public, car c'est pour un particulier, le Kohen Gadol, qu'il est employé. C'est pour cela que la Mishnah dit que cet ustensile était utilisé par le public pour la purification du lépreux et pour les pains qui accompagnent les sacrifices de l'abstinent. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Chatzilug mahaya meshamesh » à quoi servait l'ustensile qui contient un demi-loup, etc. Yativ Rebi Vekakashale, Rebi Titasi, et posait la question suivante. Chatzilug Lamanimshach, pourquoi est-ce que l'ustensile qui contient un demi-loug a été enduit et donc a été sanctifié? Isota, si c'est pour l'eau employée pour la femme soupçonnée d'adultère, comme le dit la Mishnah, Vechichulinhu, Detzrichele Kidushé, est-ce que cette eau était profane pour qu'on ait besoin de la sanctifier? Pourtant, dans Bamidbarhe, Maim Kdoshim Ktiv, le Pasuk, s'exprime en parlant de cette eau, de l'eau sacrée. Cette eau provient donc du Kior, elle a déjà été sanctifiée, il n'est pas nécessaire de la sanctifier à nouveau. Et comme le précise le Tosfot, on ne peut pas dire non plus que cet ustensile a été sanctifié, car on ne peut pas mettre de l'eau sanctifiée dans un ustensile profane, car cette règle n'existe que pour ce qui va être offert sur le sanctuaire, mais pas pour cette eau qui ne sera pas offerte sur le sanctuaire. De toute façon, c'est la femme qui la boira. Itoda, si c'est pour l'huile utilisée pour les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement. Lachmetoda, beshritat, toda ou dekatché. Pourtant, les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement ne sont sanctifiés que par la sacrification du sacrifice de remerciement. Ils ne sont donc de toute façon pas sanctifiés auparavant. Amarle, Rabbi Shimon Berebi, Rabbi Shimon, fils de Rebi, lui a répondu à Rebi son père, Shebo hayam echalek chatzilug shemen lechol nerveiner. C'est avec cette mesure qu'il mesurait la quantité d'un demi-loup d'huile qu'il devait verser dans chacune des 7 lampes du candélabre qui se trouvait dans le sanctuaire. Amarlo, Rebi lui a répondu, il l'a loué en lui disant « Ner Israël, lumière d'Israël, Kachaya ». Effectivement, c'est ainsi que c'était. C'est effectivement pour cela que cet ustensile avait été sanctifié. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rebi, Ner Shekavta, une lampe du candélabre qui s'est éteinte au milieu de la nuit, alors qu'elle doit rester allumée toute la nuit, Nidshan Hashemen, l'huile s'est remplie de cendres, autrement dit, elle a le statut de cendre, Nidshena Haptila. La mèche a aussi le statut de cendre, ils sont donc inutilisables. Ketsadose, comment fait-il? Metiva, il nettoie la lampe, donc il la vide de l'huile et de l'ancienne mèche. Venoten Bashemen, il met de la nouvelle huile, Umadlika, et il la rallume. Yativ Rabbi Zrika, Rabbi Zrika était assis, Vekamivayale, et il s'est posé la question suivante. Kjehu Noten Bashemen, lorsqu'il met à nouveau de l'huile dans cette lampe qui s'est éteinte au milieu de la nuit. Kemida Rishona, est-ce qu'il met la même mesure que la première mesure, donc un demi-loup d'huile? Ou que Moshe Chassra, ou bien il met la quantité d'huile en fonction de ce qui a été diminué. Autrement dit, s'il restait la moitié de la lampe remplie d'huile, il mettra l'équivalent de la moitié pour qu'elle brûle le reste de la nuit. Amar Rabbi Yirmiya, Pshita de Kemida Rishona, il est évident qu'il mettra la même mesure que la première, donc un demi-loup d'huile. Dei que Moshe Chassra, car s'il faut mettre la quantité d'huile en fonction de ce que la lampe a diminué, comment peut-on savoir combien d'huile a diminué de cette lampe? Et si tu veux me répondre qu'il mesure le reste de l'huile avant de la jeter, imken sheva midot, si c'est ainsi, il n'y a que cette mesure de liquide, nafish le humidot tova, il doit y avoir beaucoup plus d'instruments de mesure pour pouvoir évaluer la quantité d'huile restante dans cette lampe. Kareale, il a dit sur lui le pasouk dans Teilim Memhe, dans le chapitre qui loue les érudits. Le pasouk dit « Vahadarcha tselach rechav aldevar emet v'anva tzedek » et ta gloire de celui qui étudie la Torah sera de réussir et de chevaucher dans le sens de guider le peuple d'Israël sur des paroles de vérité, d'humilité et de justice. Nous noterons que la Gemara dans Masechet Shabbat daf Samer Gimel Amud Alef interprète le pasouk un peu différemment. Le terme de Vahadarcha voudrait dire comme Vechidutra, c'est-à-dire le fait que tu es aiguisé, donc que tu as aiguisé ton esprit dans la Torah, te méritera de réussir et de chevaucher, autrement dit d'atteindre un poste de grandeur, et cela à cause des paroles de vérité, d'humilité et de justice. Rabbi Zrika a donc loué l'esprit aiguisé de Rabbi Yirmiya et l'a béni de réussir. Itmar Nami, il a été dit aussi Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Yochanan, Vamrela. Et il y a une deuxième version qui dit que c'est Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi, Ner Shekavta, une lampe du candélabre qui s'est éteinte au milieu de la nuit, Nidshan Hashemen, l'huile a le statut de cendre, Nidshana Haptila, l'ancienne mèche a aussi le statut de cendre, donc ils sont inutilisables. Ketsadose, comment fait-il? Metiva, il nettoie cette lampe, Venotenba Shemen Kemida Rishona, il y met à nouveau de l'huile. Comme la première mesure, donc un demi-loup d'huile, ou madlika, et il la rallume. Amar Rav Huna Bereh de Rav Yuda, Amar Rav Shechet, Ner Sheba Migdash, les lampes qui se trouvaient sur le candélabre dans le sanctuaire chez le Prakim Hava étaient constituées de plusieurs pièces. En fait, comme nous le verrons, tout le candélabre était constitué d'un seul bloc d'or. Cependant, ce qu'il voulait dire, c'est que le bout des branches du candélabre était fin, de manière à ce qu'il était possible de plier les lampes vers le bas pour les nettoyer, comme s'ils étaient sur des charnières. Kassavar, il pense, Kiktiv, lorsque le pasouk dit dans Shemot Café concernant le candélabre, Kikar, que ce candélabre était constitué à partir d'un bloc d'or de la taille d'un Kikar, qui est une mesure ou un poids, ou Miksha, et lorsque le pasouk dit aussi que le candélabre était constitué d'un seul bloc d'or, et non pas de plusieurs parties soudées, Amnora venerote active. Le pasouk parle à la fois du candélabre lui-même et de ses lampes. Par conséquent, kivandemi baya hatava, puisqu'il est nécessaire de nettoyer les lampes, il lave des prakim have, si ce n'était qu'elles étaient constituées de plusieurs pièces, c'est-à-dire qu'il était possible de plier les lampes vers le bas, lo hava metai vale, il aurait été impossible de les nettoyer convenablement. Metive, on a opposé à enseignement, la braïta suivante. Ketsad osé, comment fait-il pour nettoyer les lampes? Mesalkan, il les enlève du candélabre, ou manichan baohel, et il les pose dans la tenture qui se trouvait dans le désert, par exemple, ou bien dans le sanctuaire, ou mekanchan bisfog, et il les essuie avec un chiffon. Venoten bahen shemen, et il y met à nouveau de l'huile, ou madlikan, et il les rallume lorsqu'il les aura à nouveau replacés sur le candélabre. En tout cas, nous voyons dans cette braïta qu'il était possible de déplacer les lampes. La Gemara répond, Hu de Amar ki haitana. Rav Huna qui a dit cela pense comme l'auteur de la braïta suivante. Détania, car il est enseigné dans une braïta, Chachamim omrim, lo hayu mezizin otah mimkoma. Il ne la bougeait pas de sa place, donc il ne bougeait pas du tout les lampes de leur place. La Gemara demande, puisque la braïta dit qu'il ne les bougeait pas, Miklal di bayale, pouvons-nous donc déduire de là que s'il le voulait, les Azusa, de bouger les lampes, Matsimazizla, qu'il pourrait les bouger et les déplacer, s'il était possible de le faire, pourquoi donc les laissait-il sur place alors qu'il pouvait les déplacer pour les nettoyer convenablement? Et là, plutôt, Emma, il faut lire ainsi, Lo haita zaza bimkoma, les lampes ne bougeaient pas de leur emplacement, c'est-à-dire qu'ils étaient fixés au candélabre. C'est pour cela que Rav Huna a dit qu'il était possible de plier le bout des branches du candélabre vers le bas pour pouvoir les nettoyer convenablement. Alors, la Gemara demande Ouman Chachamim, qui sont ces Chachamim de la Braïta que nous venons de voir? La Gemara répond, nous lisons selon la Shittam Koubetset, Rabbi Lazar bar Tzadok hu. Ces Chachamim, c'est en fait Rabbi Lazar, fils de Tzadok. Netanya, car il est enseigné dans une Braïta, Rabbi Lazar ber Rabbi Tzadok Omer, Kemin tas shel zahav hayala al gaba. Il y avait une espèce de plaque d'or qui recouvrait la lampe. Cette plaque était fixée sur la branche du candélabre, mais de manière à pouvoir pivoter légèrement vers l'avant ou vers l'arrière. Kesheu metiva, lorsqu'il voulait nettoyer la lampe, dorko klapepiha, il faisait avancer légèrement cette plaque vers le bec de la lampe. Ainsi, la lampe est découverte. Il était possible de la replier vers l'arrière pour la nettoyer. Chez Hunoten Bashemen, lorsqu'il voulait à nouveau mettre de l'huile dans la lampe, Dorko Klaperosha, après avoir redressé la lampe, il repoussait à nouveau cette plaque vers l'arrière pour maintenir la lampe en place. Dans cette plaque, il y avait un trou par lequel on faisait couler l'huile. Ubeplukta de Anetanaï, et cette discussion que nous venons de voir est la même que la discussion qui existe entre les Tanaïm suivants. Détania, car il est enseigné dans une braïta. Menorah veneroteha ba'ot min hakikar. Le candélabre et ses lampes proviennent d'un bloc d'or de la taille d'un kikar. Et donc, ils sont formés par le même bloc. Et ils sont donc d'une seule pièce. Ve'en malkacheha ou martoteha min hakikar. Tandis que ces pincettes qui servaient à manipuler la mèche et ces pelles qui servaient à recueillir les détritus n'étaient pas constituées à partir du bloc d'or de la taille d'un kikar, car en fait, c'était des pièces détachées. Rabbi Nechemia Omer, Menorah haïta ba'amina kikar, le candélabre lui-même provenait d'un bloc d'or de la taille d'un kikar, velo neroteha ou malkacheha ou martoteha ba'ot mina kikar, tandis que ses lampes, ses pincettes et ses pelles ne provenaient pas de ce bloc d'or de la taille d'un kikar, car selon lui, même les lampes étaient aussi détachées. Donc c'est la même discussion que nous avons vue précédemment entre Rabbi Lazar ber Rabbi Tzadok et la première braïta, à savoir si les lampes étaient attachées au candélabre ou non. La Gemara demande de Maïkamiflegué, en quoi discutent ces Tanaïm, à savoir si les lampes étaient attachées au candélabre ou non. La Gemara répond, Behaïkra, ils discutent concernant l'interprétation du pasouk suivant. Détania, car il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Shemot Café concernant le candélabre. Le pasouk dit « Kikar zahav tahor yaseota ». Il la fera, donc ce candélabre, à partir d'un bloc de la taille d'un kikar d'or pur. « La madnu le menorah sheba amina kikar ». Nous avons donc appris de ce pasouk que le candélabre provient d'un bloc d'or de la taille d'un kikar. « Minayin le rabot neroteha » D'où sait-on que nous incluons aussi ces lampes, donc, qu'elles doivent donc provenir aussi de ce même bloc d'or? La Breta répond « Talmud Lomar », c'est pour cela que le pasouk dit « Le pasouk poursuit en effet en disant « Et kol hakelim ha'ele » tous ces ustensiles. Cela vient inclure donc même les lampes. « Yachol shani marbe af malkachea ou martoteha » Se peut-il que j'inclue aussi ces pincettes et ces pelles, donc qu'elles devront provenir aussi de ce même bloc d'or? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, comme nous l'avons vu précédemment, « Ota, elle ». Il la fera, c'est une restriction qui vient exclure donc les pincettes et les pelles. Divrei Rabbi Nechemia, ce sont les paroles de Rabbi Nechemia. La Gemara s'étend tout de suite. Kasha de Rabbi Nechemia, de Rabbi Nechemia. Il y a une contradiction entre les paroles de Rabbi Nechemia et les autres paroles de Rabbi Nechemia. car dans cette braïta, nous voyons que Rabbi Nechemia pense que les lampes sont attachées au candélabre, tandis que dans la braïta précédente, nous avons vu que l'opinion de Rabbi Nechemia est que les lampes ne sont pas attachées au candélabre. L'Agma répond, Tretanae va alibad Rabbi Nechemia. Il y a une discussion entre des Tanaïm concernant l'opinion de Rabbi Nechemia. Donc, l'opinion de Rabbi Nechemia dans cette deuxième braïta correspond à l'opinion du premier auteur de la braïta précédente et de Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok. Rabbi Yehoshua ben Korcha Omer, Menorah ba'amina kikar. Le candélabre provient d'un bloc d'or de la taille d'un kikar. Ve'en malkacheha umachtoteha venerotéha ba'ot mina hakikar. Tandis que les pincettes, les pelles et les lampes ne proviennent pas de ce bloc d'or de la taille d'un kikar. Et cela parce que le pasouk que nous avons vu précédemment dit Yaseota, il la fera donc uniquement le candélabre. C'est uniquement le candélabre qui provient de ce bloc d'or de la taille d'un kikar et non pas les autres pièces comme les lampes et les pincettes. Alors il se demande, comment est-ce que j'accomplis ce pasouk qui dit tous ces ustensiles qui viendraient apparemment inclure d'autres choses? Il répond, Shehayu kelim shel zahav. Le pasouk veut simplement dire que toutes les pièces détachées étaient aussi en or. Alors la Gemara demande, Zahav beidiaktivbo. Le pasouk dit clairement concernant ces pièces détachées qu'elles sont en or. En effet, le pasouk dit toujours dans le même chapitre, Be'asita et neroteha shiva, ve'ela et neroteha, ve'heir el ever paneha, ou malkachea ou martoteha zahav tahor. Et il fera ses lampes au nombre de sept, et il allumera ses lampes de manière à ce qu'elles éclairent vers sa face, donc vers la partie centrale, et ses pincettes et les pelles seront en or pur. Donc, le pasouk dit clairement que toutes les pièces détachées sont en or. L'Agma répond, « Lo nitzrecha et la lefinerot. » Il n'a eu besoin de dire cela uniquement concernant le bec des lampes. Et cela, car sal kadata hamina, on aurait pu penser dire, « Ho'il ou pinerot ashrure mashrar » puisque le bec des lampes vont noircir par le feu qui sera allumé constamment. Et on pourrait dire, « Hatorah chasa al mamonan shel Israël » que la Torah se soucie de préserver l'argent de Béné Israël.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.